Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très chers frères, mes chers fidèles, l'Évangile est vraiment la parole de Dieu. Elle a une profondeur, une vertu qui est infinie, une puissance très grande pour nous ramener à Dieu. C'est Saint Paul qui le dit. Je ne rougis pas de prêcher l'Évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. En effet, l'Évangile, toute la Sainte Écriture, a Dieu pour auteur principal. C'est Dieu qui nous révèle les motifs de l'aimer, sa bonté, surtout dans les Évangiles, quand nous voyons notre Seigneur venir s'incarner pour nous sauver. Les motifs de l'aimer, les moyens aussi de le rejoindre au ciel. L'Évangile, toute la Sainte Écriture, c'est la révélation de Dieu qui se donne aux hommes, qui appelle les hommes à lui dans son bonheur éternel du ciel. Et non seulement la Sainte Écriture nous instruit, mais elle nous donne des grâces quand on l'écoute avec foi. C'est ce que dit Saint Paul, si vous avez bien remarqué la citation. Elle nous donne des grâces si on l'écoute avec foi. Elle nous donne les grâces justement d'appliquer ce qu'on entend. C'est une vertu de Dieu, une puissance de Dieu. Alors, nous allons regarder, nous allons voir ensemble cet évangile, quelques petits aspects glanés çà et là dans l'évangile de ce dimanche. Et quand on regarde notre Seigneur, eh bien, nous remarquons trois choses principales. D'abord, sa compassion, sa puissance ensuite, et puis enfin, sa mission divine. Et puis d'abord, sa compassion. Il marche avec ses disciples, avec une foule nombreuse. Pourquoi est-ce qu'il marche? C'est pour chercher les âmes. Notre Seigneur s'est incarné, le Verbe s'est fait chair pour sauver les âmes. Alors il marche, il parcourt les routes de la Galilée pour nous sauver. Et alors il voit ce cercueil, ce cortège funèbre. Il voit cette mère qui pleure. Son fils unique, cette veuve. Et alors, nous dit la Sainte Écriture, il eut pitié d'elle. Notre Seigneur a eu compassion. Et lui dit, ne pleure pas, n'oliflerie. Et il fait un miracle. Voyez la compassion de notre Seigneur, combien il nous aime. La religion catholique, la religion de notre Seigneur n'a rien de froid. Notre Seigneur n'a rien de froid. Ce n'est pas simplement un code qu'il est venu nous donner. Faites ceci, ne faites pas cela, et comme ça vous irez au ciel et vous n'irez pas en enfer. Non, c'est beaucoup plus. La racine, le cœur de notre religion, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui nous appelle, et c'est la grande leçon de cet évangile, la leçon principale. Notre Seigneur a compassion de ce mort, comme il a compassion aussi de tous les autres morts, de ceux qui meurent non plus dans leur corps, mais dans leur âme, la mort du péché. Il a compassion, il souffre de nos douleurs. D'ailleurs, ailleurs dans les évangiles, nous voyons trois fois notre Seigneur pleurer. Il pleure sur Jérusalem d'abord, sur sa patrie qui pourtant le rejette, sur Jérusalem qui va le crucifier, et pourtant il a compassion. Il pleura en voyant Jérusalem en annonçant sa ruine parce qu'il l'a rejetée. Notre Seigneur pleure aussi sur Lazare, sur son ami. C'est ce que la Sainte Écriture nous dit. Notre Seigneur a connu l'amitié humaine. Il pleure sur Lazare et le ressuscite. Mais surtout, mais principalement, notre Seigneur a pleuré sur les âmes lors de son agonie au jardin des Oliviers. Il pleura tant que ses yeux ne suffisaient plus. C'est son corps tout entier qui versa des larmes de sang, qui répandit son précieux sang, ce sang qui nous sauve. Voyez, personne n'a pleuré comme notre Seigneur. Personne n'a pleuré ses larmes de sang de tout son cœur, de tout son corps. La miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et alors, quelle leçon à en tirer de ce premier point? Eh bien, n'ayons pas peur de nous approcher de Dieu, de notre Seigneur, dans l'oraison. Exposons-lui nos misères. Sainte Thérèse d'Avila disait qu'elle garantissait le ciel à ceux qui faisaient 15 minutes d'oraison par jour. Approchons-nous de notre Seigneur. N'ayons pas peur de lui montrer nos misères, et alors notre Seigneur aura compassion de nous, surtout sur nos misères spirituelles, sur nos péchés, sur nos vices. Notre Seigneur nous pardonnera si on les regrette vraiment, il nous donnera les forces d'avancer. Mais il faut pleurer, comme cette veuve, il faut pleurer nos péchés. Et puis ensuite, ce qu'on remarque, c'est la puissance de notre Seigneur. D'un seul mot, il ressuscite un mort. D'un seul mot, il lui rend la vie, comme lors de la création, il a tiré le monde entier, tous les vivants du néant, d'un seul mot. Vous voyez, il dit, « Lève-toi, et le mort se lève. » De même qu'il a dit, dans la Genèse, « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Notre Seigneur est tout-puissant. Il est le maître absolu de la vie et de la mort. Il montre qu'il est Dieu. Mais voyez, dans cet évangile, nous voyons que cette puissance, cette toute-puissance, notre Seigneur la met comme au service de sa miséricorde. C'est parce qu'il a pitié, c'est parce qu'il a compassion qu'il ressuscite ce mort. Et c'est là le motif de notre espérance. Le motif de l'espérance, c'est la toute-puissance miséricordieuse de Dieu. Dieu qui est tout-puissant, et aussi Dieu qui veut utiliser d'une certaine manière sa toute-puissance pour nous élever à lui, pour nous pardonner le péché. Et voyez, le péché, c'est la mort de l'âme. Ce mort, selon le sens spirituel de l'Évangile exposé par les pères de l'Église, ce mort, c'est celui qui est mort par le péché. C'est l'âme qui a perdu la grâce ou qui en est privée par le péché originel ou qui l'a perdue par le péché mortel, le péché actuel. Et c'est bien avec raison que ce mort représente le péché, parce que véritablement, le péché est une mort. La mort, d'abord, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et puis le péché, lui, c'est une séparation bien plus grave. C'est la séparation de l'âme d'avec Dieu, d'avec son auteur, d'avec sa vie. C'est la perte de la vie et de la grâce. Et puis un mort ne peut pas agir. Le mort, c'est celui qui ne bouge plus, qui n'a plus de mouvement. Et l'âme aussi, qui est en état de péché mortel, est incapable d'agir surnaturellement. Elle est incapable de faire le moindre bien surnaturel. Elle peut faire un certain bien naturel, bien des gens qui n'ont pas la grâce, qui peuvent être généreux, qui peuvent avoir certaines qualités, mais ça ne vaut rien au niveau surnaturel. Ça ne vaut rien pour le ciel. Oui, le péché mortel, c'est véritablement la mort de l'âme. Et puis enfin, et surtout, le mort est incapable de se ressusciter lui-même. C'est évident. Le mort, ça ne ressuscite pas. Et de même, par le péché mortel, l'homme se met dans un état où par lui-même, il est incapable de se relever parce qu'il a perdu le principe du mérite. Il a perdu la grâce qui seule peut le rendre agréable à Dieu. Et sans cette grâce, comment peut-il se relever? Il ne peut plus faire le moindre bien surnaturel. Par lui-même, il est impuissant. Mais alors, s'il pleure, cette veuve qui pleure, c'est notre mère, la Sainte Église, qui pleure sur les âmes en état de péché. Et si ce pécheur s'approche du prêtre, il reçoit l'absolution. C'est notre Seigneur qui l'absout, qui lui rend la vie. Et voyez, cette veuve pleure. On peut aussi prier pour ceux qu'on aime, pour ceux qui sont tombés. Tous nous connaissons sans doute des gens qui étaient dans la tradition et qui ont tout quitté, ou presque tout quitté. Mais il ne faut jamais désespérer. Il faut offrir ses âmes à notre Seigneur. Il faut pleurer sur elles. Bienheureux les âmes qui pleurent, car elles seront consolées. C'est l'histoire de Sainte Monique. Sainte Monique, la mère de Saint Augustin. Saint Augustin était tombé dans le péché. Il était tombé dans l'hérésie manichéenne. Il était tombé dans le vice, dans le concubinage. Et pendant des années et des années, Sainte Monique, sa mère, a pleuré sur lui, a supplié notre Seigneur de le sauver, et après bien des années, elle a été exaucée. Notre Seigneur a ressuscité cette âme dans le péché, celle de Saint Augustin, et en a fait l'un des plus grands pères de l'Église. Saint Augustin, c'est une sommité dans l'histoire de l'Église. Et puis enfin, nous voyons la mission divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur montre par ses miracles qu'il est véritablement le Fils de Dieu, que ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Il adressait un jour ce reproche aux pharisiens incrédules. « Si vous ne croyez pas dans mes paroles, croyez du moins dans mes œuvres, c'est-à-dire dans ces miracles, parce que ces œuvres, ces miracles prouvent qu'il vient de Dieu. » Et seule notre religion catholique a ces signes, seule elle est véritable, seule est la vraie religion, parce que seule elle a ce sceau divin, cette preuve du miracle qui montre qu'elle est approuvée de Dieu, qu'elle vient de Dieu. Un jour, un théosophe, donc un chef d'une fausse religion, se plaignait devant Napoléon, qui a pu dire qu'il n'était pas très recommandable, mais qui a pu dire une fois quelque chose d'à peu près vrai. Donc ce théosophe se plaignait devant Napoléon de ce que sa religion n'attirait personne. Voilà. Il avait inventé tout un système, que d'ailleurs vous ne connaissez sans doute pas, justement parce que personne ne s'en est approché. Et alors, personne n'était intéressé parce que c'était bien farfelu. Et alors, Napoléon lui a répliqué avec un peu d'humour, « Oh, je peux vous donner un moyen très facile d'attirer les gens. Faites-vous guillotiner, ressuscitez au bout de 3 jours, et alors je vous garantis un très grand succès. » Seule notre religion catholique a ce signe, notre Seigneur qui est mort sur la croix, qui a ressuscité au bout de 3 jours. Et donc, seule elle a des droits, seule elle a droit à exiger de la part des individus leur conversion, l'adhésion à la très sainte religion. Seule elle a le droit d'exiger aussi de la société qu'elle conforme ses lois aux lois de notre Seigneur, aux lois de Dieu. Car par ses miracles, notre Seigneur a prouvé qu'il est le Christ, le roi de toutes les nations. Nous avons donc vu cette compassion de notre Seigneur, cette compassion qui utilise sa toute puissance pour ressusciter une âme. Et par cette résurrection, eh bien, il nous offre une grande leçon, celle de sa mission divine pour ressusciter nos âmes, les sauver du péché. Et alors, en conclusion, bien chers fidèles, ce mort, c'est également ce pauvre monde, ce monde qui a rejeté notre Seigneur. Et nous voyons bien où cela le conduit. C'est le chaos. C'est l'abandon de Dieu. Monseigneur Pie disait que lorsque notre Seigneur ne règne pas par les bienfaits attachés à sa présence, il règne par les malheurs inséparables de son absence. Oui, ce monde se meurt. Alors, comment faire pour obtenir sa guérison? Il faut pleurer comme cette veuve. Il faut attirer la compassion de notre Seigneur. Voyez, notre Seigneur n'aurait sans doute pas ressuscité ce mort, s'il n'avait vu cette mère pleurer sur lui. Ce sont les larmes de cette veuve, de cette mère, qui a attiré sa compassion, qui a obtenu cette résurrection. Alors si nous voulons que ce monde, que notre Seigneur ressuscite ce monde, lui rende sa grâce, l'attire à lui, le convertisse, eh bien, il faut pleurer, il faut prier, il faut supplier notre Seigneur de le sauver. Et alors notre Seigneur nous exaucera. Mais si nous ne faisons rien, bien le monde continuera de crouler et rien ne se passera. Alors prions de tout notre cœur, ayons grande espérance en même temps. Notre Seigneur est tout puissant, il peut tout faire. Mais il veut mettre sa toute puissance en œuvre lorsque nous le prierons de tout notre cœur. C'est la grâce que nous demanderons à Notre-Dame, Notre-Dame, Mère de tous les hommes, Notre-Dame qui intercède aussi pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.